La fin de vie des malades de Parkinson nous préoccupe aujourd'hui.
Oui, nous l'avons annoncé à de nombreuses reprises sur Radio Présence. Les questions de fin de vie vont être à nouveau débattues par les parlementaires. Les 12 et 19 mai, la situation des malades de Parkinson est particulièrement préoccupante. C'est ce qu'indique l'enquête présentée par l'association France Parkinson. Amandine Lagarde, sa directrice générale, nous en présente les grandes lignes ce matin. Amandine Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis Paris. Également invitée de Radio Présence, Claudette Amry. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez accompagné votre mari atteint de la maladie de Parkinson et êtes aujourd'hui veuve. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Amandine Lagarde, qu'est-ce que vous attendez de ce projet de loi sur la fin de vie, notamment pour les malades de Parkinson évidemment?
Alors, nous, ce qu'on attend de ce projet de loi, c'est qu'il prenne mieux en compte les spécificités des pathologies. Donc, en l'occurrence, pour nous, la maladie de Parkinson, c'est une maladie très spécifique, très complexe, avec un traitement également qui est complexe et qui doit être maintenu jusqu'à la fin de la vie, autant que possible. C'est ça, notamment, qu'on souhaite, c'est que les soins palliatifs pour cette pathologie soient adaptés et prennent en compte cette maladie de Parkinson.
Mmh. L'enquête menée par Via Voice, à laquelle vous avez participé, France Parkinson, a notamment été réalisée auprès d'aidants. Claudette Amry, vous avez accompagné votre mari tout au long de sa maladie, comme dans la plupart des deux tiers des cas. Donc, votre mari était à la maison et vous étiez à ses côtés. Comment la maladie de Parkinson a-t-elle été spécifiquement prise en compte? Comment vous avez été accompagnée sur les derniers mois, on va dire, de vie de votre mari?
Difficilement.
Difficilement.
Difficilement, oui. Il y a eu l'accompagnement, ça, il n'y a pas de... Mais difficilement, parce qu'on se trouve devant des personnes qui ne connaissent pas la maladie.
Donc des personnes qui ne sont pas formées, des médecins, des infirmiers?
Oui, beaucoup, mm-hmm. beaucoup. Disons que sur 5 personnes, vous n'en avez que 2 qui connaissent bien la maladie, c'est tout.
Ouais. Alors, vous dites que vous aviez quand même une visite régulière de personnel soignant.
Oui, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, oui,
d'accord,
oui,
ça, c'est bien organisé.
Oui, c'est bien organisé, il voilà. n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a beaucoup d'incompétences, c'est tout, la maladie.
Et alors, si les malades, et en l'occurrence votre mari, étaient accompagnés par des personnes qui n'étaient pas compétentes, quelles ont été les conséquences de ce mauvais suivi?
Ils vous disent, il fait des caprices, ou c'est... Non, ça va passer. Enfin, des choses vraiment ignorantes de la maladie, quoi, vraiment.
Oui.
Un comportement non justifié qu'ils avaient, voilà.
Et vous m'avez expliqué, Claudette Amry, que vous vous êtes formée à la maladie de Parkinson parce que vous aviez d'abord accompagné, dans un premier temps, votre belle-mère. Et finalement, vous en saviez plus que les médecins eux-mêmes, c'est ça?
Beaucoup, oui, ouais. Beaucoup. Oui, parce que j'ai certains médecins qui m'ont demandé des cours que j'avais eus avec France Parkinson. Voilà.
Et c'est effectivement ce que dit cette étude. 45% des professionnels interrogés et 28% des aidants déclarent que la prise en compte des spécificités de la maladie de Parkinson est insuffisante.
Oui.
Sur l'ensemble des professionnels de santé interrogés, l'enquête dit encore que 37% déclarent que le suivi des patients par le neurologue a été arrêté et que 45% de ce suivi est moins soutenu qu'auparavant, un éloignement au moment où l'état des personnes atteintes de Parkinson est le plus détérioré et où ils en auraient eu particulièrement besoin. Vous confirmez ça aussi?
Ah oui, tout à fait. C'est là qu'on a le plus besoin. Mais là, ils vous disent, écoutez, on le laisse tranquille.
On ne peut rien faire.
On ne peut rien faire, c'est plus la peine, laissez-le tranquille. Le parkinsonien souffre énormément, il a beaucoup de douleurs et il est conscient. Jusqu'au bout, il est conscient.
Jusqu'au bout, il est conscient. Amandine Lagarde, comment se manifeste cette défaillance?
Écoutez, c'est tout ce que vous avez dit. C'est alors d'une part le problème du maintien du suivi par le neurologue, parce qu'en fait c'est une maladie qui nécessite un suivi par un médecin spécialiste, donc le neurologue. Et on voit bien en fait avec cette étude, c'est ce qui nous était rapporté, mais l'étude vient vraiment nous le confirmer par les chiffres. Il y a un problème de maintien de ce suivi par le neurologue. Donc effectivement, vous l'avez dit, dans une grande partie des cas, il est carrément arrêté. Dans d'autres cas, il est moins soutenu qu'avant. Et il faut quand même rappeler que, en temps normal, c'est de toute façon pas plus de 2 fois par an qu'on voit le neurologue. Donc, c'est déjà peu. Donc, quand on dit moins soutenu, c'est encore moins que ça. Donc, on a quand même 80% des professionnels qui avouent hein, que ce maintien n'est pas suivi. Et c'est vrai que c'est un des premiers problèmes parce que c'est le neurologue qui va pouvoir agir sur l'adaptation du traitement, notamment en fin de vie, quand, notamment en particulier quand les personnes ne peuvent plus bien avaler
Oui, on
leurs
en parlera.
médicaments. Voilà. Alors donc voilà, on a ce problème de maintien, du suivi, on a ce problème de connaissance dont vous avez parlé de formation hein, sur la maladie de Parkinson et de connaissance de ses spécificités, des difficultés du coup à adapter la prise en charge par rapport à cette maladie, à trouver la disponibilité aussi pour être auprès des personnes malades qui, bah, c'est vrai, nécessitent de l'attention, du temps et du temps que les soignants n'ont pas. La plupart du temps.
Alors, et c'est l'intérêt de garder son patient à domicile, c'est que la situation s'améliore. Vous confirmez, Claudette Amry? En tout cas, vous avez plus davantage accompagné votre mari que s'il était dans un établissement.
Disons qu'il y a certains établissements. Ici, on a la joie quand même d'avoir deux établissements qui sont vraiment compétents et qui suivent quand même.
Vous parlez de la ville de Toulouse.
De la ville de Toulouse, oui, effectivement. Ce sont des EHPAD municipales qui sont très bien. Mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux.
Voilà.
Après, à la maison, il y a une incompétence inimaginable.
Mais vous, en tant qu'aidant, qu'est-ce que vous faisiez très concrètement pour votre mari?
Ah ben, j'étais là continuellement. Continuellement, il y avait les aides-soignants, les infirmiers. À la fin, il y avait le HAD qui était présent.
Le service d'hospitalisation à domicile.
Ils venaient que quand ils avaient le temps.
D'accord. Donc vous, vous étiez présente et qu'est-ce que cette présence permettait?
Ben, déjà, d'être avec lui, de lui donner les médicaments, de lui donner s'il avait envie de boire, s'il avait envie d'être retourné, parce qu'il souffrait beaucoup. Ils souffrent beaucoup, ils ont beaucoup de douleurs à tout point de vue. Et beaucoup de fausses routes, comme vous dites, voilà.
D'accord. Quelle solution, Amandine Lagarde, pourrait être envisagée pour pallier aux défauts de coordination entre les équipes soignantes, les médecins qui se rendent sur place, et puis les infirmiers, les aides-soignants voilà. Est-ce que vous avez des suggestions à faire qui pourraient, je ne sais pas, peut-être être prises en compte dans la loi fin de vie?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on sait que le neurologue, déjà, il n'y en a pas assez sur le territoire et qu'il n'est pas suffisamment disponible pour pouvoir effectivement assurer un suivi rapproché, notamment en fin de vie, mais en tout cas pour aussi se déplacer, notamment à domicile ou dans les EHPAD quand les personnes ne peuvent pas être maintenues à domicile. Et du coup, une des solutions serait de permettre en fait qu'il y ait un accès possible à ce neurologue. À distance. Donc, ça pourrait être les téléconsultations, d'une part. Et d'autre part, nous, on pense, et ça, c'est valable pour l'ensemble du parcours tout au long de la maladie de Parkinson, il serait nécessaire qu'il y ait un professionnel qui assure ce suivi plus rapproché, qui ne peut pas être fait par le neurologue, qu'il l'assure en lien avec celui-ci et qu'il puisse coordonner effectivement ce parcours de soins avec les différents professionnels qui interviennent. Et ce professionnel, nous, on pense que ça pourrait être un infirmier ou une infirmière qui serait référent sur la pathologie.
Alors, je vois en face de moi Madame Imbri qui soupire. Pour vous, ce n'est pas une solution qui serait adaptée?
Disons que c'est bien beau de dire ça, mais bon, en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que bon, bien sûr que vous avez des infirmières, vous avez des aides-soignants, vous avez des médecins et tout. Mais bon, je vois au HAD, c'est l'infirmière enfin, le médecin qui était dans son protocole, tout ça, qui supervisait toutes ces personnes, enfin ce groupe. Ben, vous savez, il a fallu quand même que j'appelle mon médecin, médecine générale, que vraiment qu'il arrive. Et c'est lui qui a à peu près donné l'ordre de réduire cette ordonnance qu'on avait donnée aux infirmiers
D'accord.
du HAD,
Oui,
quoi.
ce dont Amandine Lagarde parlait, c'était d'un projet, d'un souhait d'avoir une personne qui coordonne. Hein, c'est pas quelque chose qui existe
Ben,
encore
si,
maintenant.
le HAD a un médecin qui coordonne tous
Oui,
ces
mais
soins.
apparemment, ça n'est pas
Mais
suffisant.
ce n'est pas
Voilà.
suffisant parce que c'est généralisé, c'est tout. Mais ce n'est pas spécifié pour la maladie de Parkinson. C'est pas vrai,
Alors,
ça.
c'est ça. C'est ça, c'est que le professionnel qu'on souhaiterait, ce serait un professionnel référent, donc
Eh oui.
expert sur la maladie de Parkinson, et qui pourrait aussi transmettre justement bah, les fameuses informations qui manquent aux professionnels, les fameuses connaissances qui manquent, plutôt que ce soit les dents qui soient obligées, bah, comme vous l'avez dit, Madame Amery, obligées du coup de presque de transmettre et de former les professionnels sur la
Oui,
pathologie.
c'est ça. Et l'enquête indique aussi que le suivi médicamenteux n'est pas bien assuré ou carrément interrompu. Est-ce que vous avez connu cette
Oui,
situation pour
ah,
votre
beaucoup.
mari?
Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que bon, ben, il y a le médecin qui n'exerce plus, donc on prend un autre médecin, et puis qui vous dit, ah ben non, il faut faire ça, 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 et puis ben non, vous dites, ça va pas, ça, ce que vous dites là, c'est pas bien. Bon. Et puis chaque individu a quand même une ordonnance précise pour lui. On ne peut pas donner un médicament à un autre, non, c'est pas
Oui, bien sûr.
possible.
Quels sont les risques, Amandine Lagarde, que le traitement soit mal suivi ou carrément interrompu?
Ben, le risque, c'est que, en fait, arriver en fin de vie, en général, ça fait des années, hein, voire des dizaines d'années, que ce traitement dopaminergique, il est pris pour la maladie de Parkinson. Donc, s'il est interrompu déjà brutalement, il y a un risque important de perte d'autonomie d'un coup et de resurgescence, en fait, des symptômes de la maladie de Parkinson. C'est un risque important, mais il y en a un plus gros encore, c'est qu'il y a un risque carrément de syndrome malin des neuroleptiques dû à l'arrêt brutal de ces traitements dopaminergiques qui peut conduire jusqu'au décès de la personne. Alors, ce n'est pas dans tous les cas, mais ça peut être un risque aussi. Donc, l'arrêt brutal, c'est vraiment à proscrire de toute façon. Et puis, le traitement dopaminergique, c'est le seul traitement qui va permettre de prendre en charge tout un tas de symptômes, notamment moteurs, dans la maladie de Parkinson et notamment par exemple la rigidité, les raideurs, etc., qui, comme le dit Madame Amery, engendrent de très fortes douleurs dans la maladie de Parkinson. Et par ailleurs, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui a tendance à abaisser le seuil classique de la douleur. Donc c'est ces traitements aussi qui vont pouvoir agir pour permettre de limiter ces douleurs. Donc si le traitement est interrompu ou mal maintenu, bah, il y a un risque très, enfin, d'accélérer et d'augmenter ses douleurs en fin de vie.
Claudette Amery, vous disiez qu'en accompagnant votre mari, vous étiez chargée de lui donner ses médicaments
Oui.
et dans ce cas, vous les donniez à heure fixe.
Ah
Voilà,
oui,
c'était quelque chose de très
surtout à
précis,
heure fixe.
surtout à heure
Ah
fixe. Oui.
oui.
Et est-ce qu'il arrivait à avaler ses médicaments? Parce que l'enquête indique que justement, ces médicaments sont
Non,
difficiles à
il
avaler.
arrivait à ne pas. C'est vrai que pour avaler les médicaments, c'était très dur, surtout à la fin. Donc, ben, il fallait soit les écraser, soit les
Oui.
mettre en poudre, les mettre dans de l'eau. Enfin,
Et
vous
ça
savez, il
demande
y
du
avait
temps.
plein. Et je sais qu'il y avait un laboratoire qui avait trouvé qu'on pouvait le mettre par seringue aussi. Enfin, ça,
D'accord.
c'était un laborantin qui m'avait donné ce truc,
Et
mais bon.
effectivement, France Parkinson a rédigé avec la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, les spécificités de la prise en charge d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson en soins palliatifs et en fin de vie. Amandine Lagarde, que prévoit ces dispositions, notamment pour ce suivi médicamenteux?
Justement, il existe des alternatives en fait hein, envisageables quand les traitements par voie orale ne peuvent plus être pris ou c'est plus difficile. En tout cas, ça peut occasionner des risques, comme le disait Madame Amery, de fausse route. Il y a des alternatives médicamenteuses donc qui se prennent. Alors, il y a des traitements qui peuvent se prendre en le dissolvant dans de l'eau. Il y a également les patchs qui peuvent être mis et qui délivrent le traitement en continu. Il y a également des systèmes de pompe qui peuvent délivrer les traitements en continu également par voie sous-cutanée. Et ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place assez simplement. Il faut que ce soit évidemment encadré par le neurologue. Et c'est pour ça que s'il est difficile d'y avoir accès, il peut y avoir des professionnels relais. Mais en tout cas, il faut que ce soit supervisé par le neurologue qui connaît bien ces traitements. Et ces alternatives, elles peuvent être envisagées même en toute fin de vie et même si ces traitements n'avaient pas été pris jusque-là. Ça permet en tout cas de maintenir ce traitement dopaminergique et de ne pas le supprimer, comme je le disais.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Amandine Lagarde. Je rappelle que vous êtes la directrice
Je vous en
générale
prie.
de France Parkinson. Merci Claudette Amri.
De rien.
Et voilà, merci pour votre participation. Nous avons bien compris que la fin de vie des personnes atteintes de Parkinson était un sujet préoccupant. Espérons qu'il sera pris en compte en mai prochain lors des projets de loi sur la fin de vie. C'était votre grand entretien sur Radio Présence. Merci de l'avoir suivi.
Merci.